RFI et TV5 Monde vous présentent Afrique Presse.
Hassan Diop.
Bienvenue à toutes et à tous. Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Denise Epoté, TV5 Monde, Laurent Despas, Kouassi.com, Louis Magloire Comayou du Club de l'information africaine. Et c'est autour de deux sujets cette semaine. Le Burkina Faso, la capitale Ouagadougou frappée par un nouveau raid terroriste avec deux cibles institutionnelles de visée. Et puis le Bénin à propos de cette première rencontre officielle ici à Paris du président Patrice Talon avec son homologue français Emmanuel Macron. Au menu, l'économie, mais aussi, chose rare, la culture. D'abord, la capitale burkinabé, donc frappée par une double attaque terroriste le 2 mars dernier, il y a tout juste une semaine. Le commando djihadiste a ciblé donc le siège de l'état-major burkinabé et l'ambassade de France. En l'espace de 2 ans, Denise, c'est la troisième attaque terroriste donc contre la capitale burkinabé. Cette dernière attaque de vendredi dernier a été revendiquée indiqué par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une coalition djihadiste dirigée par le Touareg malien, Yad Agrali. Alors, une double enquête est conduite à la fois par la justice burkinabé et française, et au moment où nous enregistrons cette édition, les assaillants n'ont toujours pas été identifiés. En revanche, à Ouagadougou comme à Paris, on estime que le ciblage de l'ambassade de France et de l'état-major ne doit à rien au hasard.
Oui, je crois que c'est vrai, cette attaque du 12 mars qui a fait 18 morts ne doit rien au hasard. Ne doit rien au hasard. Pour deux raisons, à mon avis. C'est la preuve que l'armée burkinabé est infiltrée, parce que les assaillants, on le sait aujourd'hui, sont passés par une porte dérobée. Et ils ont fait exploser leur voiture devant la salle où devait se tenir la réunion du G5. Donc c'est bien la preuve qu'il y avait quelqu'un qui les a informés de cette situation. Les deux autres raisons qui expliquent un peu la fragilité du Burkina Faso depuis 2 ans, c'est que le RSP a été dissous sous la pression de la société civile, mais aussi de la rue. Et on sait très bien qu'en matière de renseignement, le régime de Blaise Compaoré reposait sur 4 personnes. Gilbert Djengéré, le général qui est accusé du coup d'État de 2015. Djibril Bassolé, le général de gendarmerie, ancien ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré. Moustapha Chafi, mais également Salif Diallo, qui est décédé au mois d'août et qui était le président de l'Assemblée nationale sous le régime de Christian Roch Marc Kaboré. Autre raison, c'est qu'il y a aujourd'hui, après la dissolution du RSP, il n'y a pas eu de réforme globale de l'armée. Donc ces 1300 hommes du RSP sont un peu dans la nature. Ils ont été répartis dans d'autres forces d'unités de renseignement. Mais on voit bien que ce n'est pas coordonné. Il y a une agence nationale de renseignement qui a été créée. Mais la personne qui dirige cette agence nationale du renseignement est contestée, François Ouédraogo. Et il n'y a pas de concertation non plus entre les autres pôles du renseignement que sont la gendarmerie et la police. Donc on voit bien aujourd'hui que Roch Kaboré ne dispose pas d'un système de renseignements fiables. Et c'est ce qui explique aujourd'hui la fragilité du pays.
Alors, Louis, ce que dit Denise, effectivement, coïncide avec les observations d'un certain nombre d'experts, y compris burkinabés, qui estiment aujourd'hui que le Burkina Faso est en effet le maillon faible du Sahel, avec le Mali, bien entendu, face au terrorisme, parce qu'il n'y a pas que les attaques contre la capitale Ouagadougou, mais le nord, la province du Soum, est le théâtre en permanence, ces derniers mois, d'attaques terroristes récurrentes.
Ce qu'il faut souligner, c'est que le président Blaise Compaoré a certes été un très grand médiateur en Afrique de l'Ouest, mais il a tiré en quelque sorte les dividendes d'une situation qui relevait déjà de la guerre froide. C'est-à-dire qu'on favorisait les régimes forts et on payait des rançons pour libérer les otages. Et tout cela se passait notamment à Ouagadougou. La négociation de la paix en Sierra Leone, au Libéria, au Togo, en Côte d'Ivoire et dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest se négociait à Ouagadougou. Et ces personnes qui étaient à Ouagadougou n'ont pas disparu d'un seul coup. Elles ne se sont pas évaporées dans la nature. Elles sont restées et elles avaient besoin d'avoir le même accompagnement après le départ de Blaise Compaoré, ce qui n'est pas le cas, vu que déjà au niveau du dispositif même administratif qui gère tout cela, les personnes qui étaient en place ont été mutées ou ont été mises aux arrêts. Et donc aujourd'hui, on est face à une situation où ils ont besoin de continuer ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire d'être traités royalement comme ils l'étaient du temps de Blaise Compaoré, mais ils ne pourront plus avoir ce traitement. Et à côté de ça, il y a la proximité géographique avec le Mali qui fait que quand il y a une attaque, ils peuvent se réfugier assez rapidement au Mali et donc ne pas avoir de poursuite. Et ça montre une deuxième chose, la faiblesse du droit de suite qu'il y a pour pouvoir atteindre ces terroristes-là une fois qu'ils ont quitté les frontières d'un pays qu'ils ont attaqué. Donc aujourd'hui, la nécessité est à la fois d'avoir un renseignement à la tête du Burkina qui répondent effectivement aux besoins de sécurité du pays et puis un besoin de coordination des différents services et surtout un droit de suite. Si jamais l'armée était capable de poursuivre au-delà de ses frontières, qu'elle puisse poursuivre au Mali, au Niger ou ailleurs les terroristes qui auraient perpétué une attaque sur son territoire.
Après cette attaque, hein, Laurent, on a vu beaucoup de commentaires incriminant évidemment sans le début de quelque preuve ce soit l'ex-président Blaise Compaoré dans cette affaire qui est aujourd'hui exilé, on le sait, en Côte d'Ivoire. Et c'est quand même la preuve peut-être que l'actuel pouvoir a des difficultés effectivement à faire face à cette complexité qui est de lutter contre le terrorisme, qui suppose des moyens de renseignement, qui suppose, je dirais même, des relais détournés avec ceux qui sont les sources de ces menaces. On sait que Blaise Compaoré, ce n'est un secret pour personne, avait des canaux, voire des relations, des canaux de contact avec Iyad Agrali, ce chef djihadiste que tout le monde traque aujourd'hui entre la frontière malienne et algérienne.
Il faut quand même rappeler, le Burkina est en guerre. Il y a une guerre. Donc il y a des victoires de la coalition G5 Sahel, il y a aussi des défaites. Mais ce qui m'apparaît dans cette nouvelle attaque, c'est une chose essentielle, c'est qu'il y avait un doute au Burkina sur est-ce que nous, Burkinabés, on pourrait s'associer à ça. Et là, on se rend compte notamment avec les personnes interpellées, 8 personnes interpellées, dont un ex-militaire et un militaire du rang, qui a des Burkinabés, apparemment. Et ça change tout. Toute la dimension est en train de changer. La perception même de leur pays, des Burkinabés par rapport à leur pays, est en train de changer.
Alors, Denise, vous l'avez évoqué il y a quelques instants, allons un peu plus loin, indépendamment des poursuites judiciaires dont ils font l'objet aujourd'hui, est-ce que ces anciens sécurocrates, que sont Gilbert Diendéré et l'ancien patron Djibril Bassolé, aujourd'hui ne font pas cruellement défaut finalement au Burkina Faso?
Mais justement, Hassan, vous avez raison, parce que ça pose la question de la réconciliation. Et il y a 15 jours, le président Roch Kabore, quand il recevait la coalition pour la démocratie et la réconciliation, a dit qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la justice et la réconciliation. Donc aujourd'hui, il faut qu'il passe de la parole aux actes et voir comment on peut associer ces personnalités qui s'occupaient du renseignement et qui s'en sont occupées pendant 27 ans tout de même. Parce que pendant 27 ans, comme le rappelait lui, le Burkina Faso a été à l'abri de toutes ces secousses. Et on ne peut pas le mettre seulement sur le compte de la complicité qu'avait Blaise Compaoré avec les djihadistes. Il y avait d'autres raisons. Donc aujourd'hui, ce que Roch Kabore doit faire, l'urgence, c'est d'abord de réconcilier les Burkinabés, comme il l'a dit lui-même, pas d'incompatibilité entre la justice et la réconciliation. Donc, passons aux actes et associer tous les Burkinabés. Quand on voit qu'aujourd'hui, l'armée a été infiltrée, comme le rappelait Laurent, 80 attaques, 140 morts dans le Nord, mais également les attentats du 15 janvier, mais du 13 août 2017, on voit bien que ce pays n'est plus à l'abri. On parlait du ventre mou qui était le Mali.
Le Mali.
Mais aujourd'hui, il y a le Burkina Faso.
Qui est le maillon faible.
Qui est le maillon faible. Mais ça pose aussi la question de la réponse qu'il faut avoir face à ces djihadistes. Est-ce que c'est le tout sécuritaire qui paye? Non.
Non.
Parce que en 6 ans, on voit bien que leurs moyens se sont renforcés, mais ils ont aussi, surtout, étendu leur zone d'intervention. Et leur influence. C'était le nord du Mali, aujourd'hui c'est le centre, c'était le nord du Burkina, et aujourd'hui on tape au cœur des capitales.
Alors, Louis, donc cette attaque contre l'état-major burkinabé, il y avait une réunion du G5. Le G5 porté par la France, partout sur la scène diplomatique internationale, pour essayer de réunir les fonds nécessaires à cette alliance militaire. Est-ce que le G5 est l'une des clés de la solution?
Je pense malheureusement que non. Parce que, comme le relevait Denise, on ne peut pas aller dans une démarche strictement sécuritaire. Parce que nos armées aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, les États-Unis ont une armée plutôt prête pour toutes les échéances. Ça n'a pas empêché qu'ils aient les attentats de 2001. Ça n'a pas empêché qu'ils aient une série d'autres attaques après. La France est plutôt relativement équipée aussi en termes d'armée et d'armement pour le faire, mais elle a subi des attaques, y compris de Français revenus de l'extérieur. Donc aujourd'hui, avec des armées qui ont été pendant de nombreuses années formés uniquement à mater les manifestants et à consolider le renseignement militaire pour que les dirigeants politiques de l'opposition ne viennent pas déranger ceux qui sont au pouvoir, on n'est pas prêt à donner une dimension militaire. Et je pense qu'il est important surtout d'avoir des modèles, parce que ce qui s'est passé au Burkina, pour qu'on parle de réconciliation, n'a rien à voir avec ce qu'a subi l'Afrique du Sud, par exemple, avec l'apartheid, ou le Rwanda avec le génocide des Tutsis. Donc la réconciliation est possible. Et je pense qu'il faut, au-delà de la réconciliation, installer l'autorité de l'État, y compris aux confins de ses frontières, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Brièvement, Laurent, solution ou pas, le G5, ça fait quand même partie des solutions, malgré tout.
Le G5, ça permet aussi à la France de sortir un peu et de se désengager. Voilà, et on vous laisse un peu le truc. Mais ces groupes sont quand même des gros groupes de trafic, donc ça va de l'Est à l'Ouest de l'Afrique.
Donc il est important qu'il y ait quand même des forces sécuritaires.
Oui, mais là encore, ça se met en place. Mais le Mali aussi est un problème. Le Mali, c'est une passoire. Donc quand ils ont fini au Mali, qu'ils voient qu'il n'y a plus trop de trucs à casser là-bas, ils vont casser ailleurs. Pour se faire remarquer aussi, pour aussi, eux aussi, comme le G5, appeler des fonds. Parce qu'on leur envoie des fonds aussi à ces gens-là. Donc voilà, c'est un business.
Un dernier mot, Denise?
Le dernier mot que je pourrais ajouter, c'est de dire que plusieurs fois, les forces sécuritaires françaises, notamment, ont eu dans leur viseur le Yaga Gali, mais rien n'a été fait.
Un de ses lieutenants est tombé.
Voilà, et comme le rappelait l'ancien président du Mali, hein, le nord du Mali, ATT, il disait le nord du Mali, c'est quand même le sud de l'Algérie, hein. Faut pas l'oublier.
Voilà, RFI TV 5 Monde, on en vient au deuxième sujet d'Afrique Presse, la visite cette semaine à Paris du président béninois Patrice Talon, au menu des dossiers économiques et plus rares, la culture. Denise, donc chose rare, hein, la culture a tenu une place centrale dans ce premier contact direct entre Patrice Talon et Emmanuel Macron. Il y a le volet économique, on en parlera. Alors, pour développer ce qu'il appelle le tourisme mémoriel, le président béninois a posé donc cette question de l'accès aux biens culturels spoliés à l'époque coloniale, notamment au Bénin, pas seulement, et puis des biens présents aujourd'hui dans les musées nationaux et même collections privées en France. Emmanuel Macron s'est montré très réceptif et dit, Patrice Talon, pragmatique sur ce dossier.
C'est vrai, parce qu'on se rappelle que quand la question avait été posée par Patrice Talon il y a quelques années, enfin il y a 2 ans à François Hollande, François Hollande n'était pas opposé, mais le Quai d'Orsay s'était vertement opposé à la récession des œuvres spoliées au continent, notamment lors de la conquête du Bénin en 1892, et en arguant le fait qu'il y avait, c'était sur le principe de l'inébialité, de l'incessisabilité.
Législation française très.
L'imprescriptibilité.
Oui, absolument.
Ajoutant surtout, et de manière très condescendante, que les pays africains n'avaient pas les moyens de conserver ces œuvres.
Dixit Jean-Marc Ayrault.
Voilà.
Ancien ministre.
Donc je trouve que là,
le Premier ministre.
À la fois Emmanuel Macron et Patrice Talon ont trouvé un accord, loin des polémiques, et maintenant il va falloir mettre en place des commissions comme celle qui va être dirigée par Félouine Sarr et Madame Savoie, Bénédicte Savoie. Et on sait aussi également que le directeur général du musée du Quai Branly doit se rendre bientôt à Cotonou. Stéphane Martin, pour voir ce qui peut être fait. Et je pense qu'en Afrique, même quand on dit que les Africains ne sont pas capables de conserver leurs œuvres, c'est pas totalement vrai, parce qu'il existe bien des musées en Afrique de renommée internationale. Je pense notamment au musée en Afrique du Sud, à Johannesburg, mais également le musée des civilisations bantoues au Gabon.
Alors justement, Louis, il est question de trouver un compromis. Hein. Il ne s'agit pas forcément de restituer d'ailleurs ces objets, mais de partager, d'exploiter ensemble ces objets que, par exemple, si le Bénin veut exposer certains objets, que ces objets soient exposés, pourquoi pas des copies, etc. Enfin bref, qu'il y ait une véritable coopération culturelle d'égal à égal autour de ces objets.
Ce qui est certain, c'est que quand quelque chose a été volé, ça doit être restitué à son propriétaire. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas débat. Et je pense que les deux présidents ont dû également s'entendre là-dessus. La deuxième remarque que je ferai, c'est que il est certain qu'ils feront une formule pour l'instant, vu que la loi ne permet pas qu'on restitue
la loi française,
tous azimuts, les œuvres qui ont été pillées. Ils feront un programme de cession sur 5 ans ou 10, renouvelable à chaque fois. Ça s'est déjà fait avec certains pays sur 5 ans et à chaque fois c'est renouvelé. On sait que ça ne reviendra pas, mais c'est une formule qui permet déjà que l'œuvre revienne sur les terres qui ont été les siennes. Maintenant, est-ce que le Bénin avait besoin de cela pour lancer son tourisme mémoriel?
C'est un aspect.
C'est un aspect qui permettra probablement d'accélérer, mais je pense que si le tourisme est un élément important de son histoire, le Sénégal a très bien montré que même sans avoir d'œuvres restituées, il pouvait en faire un poumon, un élément important de son tourisme mémoriel et de son économie culturelle aussi.
Mais on peut parler quand même, je veux dire, pour le Bénin, ça peut apparaître quand même comme un patrimoine important, puisque Abomey, c'était un royaume, Abomey, c'est une histoire. Abomey, c'est aussi l'histoire d'un peuple qui continue, qui se perpétue, Laurent.
D'après, Patrice Talon en vient, c'est une de ses lignées, déjà de un. Et de deux, moi je pense plutôt qu'il faut voir aussi l'aspect, c'est de Bacron, Talon, de mecs qui aiment bien le business, aussi, ça permet peut-être aussi de monter un musée, pourquoi pas à Cotonou. Là, le Bénin vient de mettre un visa à 10 000 pour 8 jours, 10 000 francs CFA, 15 euros. Donc, je pense qu'il y a une vraie dynamique. Parce que sur la conservation, si je puis me permettre, c'est quand même des œuvres qui datent de plusieurs siècles, ont toujours été en Afrique. Donc, elles étaient conservées de toute façon. Donc, elles reviennent dans leur milieu naturel. Donc, le problème de la conservation, j'y mets pas forcément d'accent. Par contre, pourquoi pas faire un quai Branly à Cotonou ou à Porte-Nouveau? Bah voilà, ça fait une coopération parce que le Bénin n'a pas grand chose à proposer pour l'instant en termes de lignes budgétaires avec la France. Pareil, ils ont discuté de voir pour un métro, c'est difficile. Le Bénin n'a pas beaucoup de ressources.
C'est ça.
Donc, un musée, c'est pas mal. Ça peut donner une bonne image. Le Bénin, c'est un pays stable. Mmh. C'est un pays qui peut jouer donc la carte du tourisme, au même titre que le Sénégal, notamment. Donc voilà, je pense qu'il y a un axe de coopération économique entre la France et le Bénin qui, alors sous couvert de restitution, mais qui peut aller sur le fait de voir un musée ouvrir et d'avoir une attractivité au niveau culturel.
Voilà, sur le plan économique, Denise, le président béninois se dit satisfait à propos donc de l'appui de la France quant à son plan de relance et de réforme économique évalué à 14 milliards d'euros. Et alors, au moment de cette visite à Paris, deux enquêtes, Lettres du Continent et Jeune Afrique, font des révélations très embarrassantes sur une dette en souffrance de son rival au second tour de la présidentielle, M. Lionel Zinsou, ancien banquier chez Rothschild, voilà, qui traîne un fardeau de quelques 20 millions d'euros qui semble avoir été hypothéqué quasiment sur sa réussite ou non au second tour de la présidentielle.
Oui, c'est bien la preuve que, comme le disait Patrice Talon au moment de la campagne de l'élection présidentielle en 2016, l'argent avait pourri le système électoral au Bénin. 20 milliards d'euros pour une campagne présidentielle, ça me semble énorme.
20 millions d'euros.
20 millions d'euros. 15 milliards de francs CFA, en l'occurrence. Ça me semble énorme pour une campagne. Donc, qu'avait à offrir en échange Lionel Zinsou à cet homme d'affaires burkinabé qui lui a prêté cet argent? Forcément des marchés, mais s'il avait été élu, de gré à gré, ce qui est quand même contraire à toute loi économique.
Laurent, c'est normal, bah c'est pas normal.
Ça se passe comme ça, on l'a vu même aussi au Gabon récemment, avec des gens derrière, des business qui se sont dit, tiens, si Bongo tombe, vite, on va récupérer plein de boîtes. C'est le business, c'est l'as de la politique, c'est les intérêts, et ça, si c'était une découverte...
Mais c'est tout sauf légal, non?
Vu d'ici sûrement, mais vu de là-bas, pas forcément, on verra.
Non, mais s'il y en a un qui sait très bien comment fonctionne cette machine-là, c'est bien Patrice Talon lui-même. Mm-hmm. Parce que pendant de très nombreuses années, déjà à la faveur, ce qui lui a permis de réussir, parce que faut rappeler l'histoire de Patrice Talon. Au début, il a un baccalauréat scientifique, un baccalauréat C, qui lui permet de rêver qu'il deviendrait pilote à Air Afrique. Il passe le concours, il arrive à Paris, les examens ne lui permettent pas, médicaux ne lui permettent pas de devenir pilote à Air Afrique. Et c'est à la suite de cela qu'il change de vocation, qu'il va à l'université et qu'il décide d'entrer dans les affaires. Et quand il arrive au pays, il se lance dans le coton notamment. Et c'est à la faveur...
Pardon? Les intrants
agricoles. Et c'est à la faveur de la privatisation, de la vague de privatisation lancée par le FMI et la Banque mondiale, qu'il fait fortune et qu'il commence à arroser tout le personnel politique.
Il a fait son mea culpa quand même là-dessus, dans un certain nombre d'interviews. Il dit que lui-même a pris une part de responsabilité. Il a été faiseur de roi. Mais pour autant, est-ce que ça excuse M. Zinsou, qui apparaissait comme un chevalier blanc?
Non, ça ne l'excuse absolument pas.
Ouais, mais il fait qu'un mandat. Il a dit qu'il fait qu'un mandat, donc c'est pas mal.
Voilà.
Et il a voulu faire qu'au Bénin, il n'y ait qu'un seul mandat. Ils n'ont pas voulu, mais bon.
Donc il ne fait qu'un mandat, mais enfin, rien ne l'oblige légalement à ne faire qu'un mandat.
Tout
à
fait. Professionnellement, il a droit à deux mandats.
Ouais, mais il a voulu tenter le fait que.
Alors, le mandat aujourd'hui, c'est 5 ans. Il prend un mandat de 6 ans, qu'il veut unique. C'est hors la loi. Il sait avant tout, il sait
mais
que le Conseil constitutionnel...
Ça a été rejeté par la Constitution
du reste.
Voilà.
Voilà. Eh bien, l'avenir nous dira ce qu'il en est. Et c'est la fin de cette émission. Merci Denise Epoté, Louis Magloire Kemayou, ainsi qu'à vous, Laurent Depas, de même que les équipes techniques et rédactionnelles. L'Afrique Presse, cette édition est à retrouver sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité à Afrique Presse.